plusieurs raisons. D'abord, comme moyen concret proposé par Édouard Vaillant et Pierre Hardy dans une courte motion présentée en 1910 au congrès de Copenhague, figure la grève générale comme réponse immédiate en déclenchement d'une guerre. Or, la grève générale, comme telle, était proposée comme moyen de fin 19e siècle par les socialistes hollandais, qui sont plutôt libertaires, et la grève générale comme thème est associée dans la social-démocratie avec l'anarchisme à une résonance anarchiste puissante. Et comme vous savez, l'ennemi numéro un pour la social-démocratie de toutes ces tendances est avant 1914 l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme. C'est un des premiers motifs pour lesquels on évite de poser cette question, on aurait plus la notion de Vaillant. Deuxième, parce que les partis, surtout le Parti social-démocrate allemand, invoquant les conditions légales en Allemagne, ne veut pas s'engager sur des moyens précis. Il veut se contenter avec des déclarations de principe. Paradoxe que ce problème, quels moyens à employer, comment ajuster la stratégie socialiste dans le cadre d'une lutte générale contre l'impérialisme, ce débat aurait dû avoir lieu en août 1914. Le congrès était fixé pour 23 août 1914, mais la guerre éclate 3 semaines avant. Ça n'aura rien changé d'ailleurs dans les fondements de la deuxième internationale. Le problème qui trouble l'historien et qui rend très difficile parfois la réponse à cette question que nous préoccupe l'effondrement international réside dans un fait majeur. Que effectivement, lors de ces crises multiples entre 1905 et 1914, le mouvement ouvrier international joue un rôle considérable comme facteur d'empêcher l'éclatement de la guerre. L'international comme tel et les divers partis mobilisent les ouvriers, mobilisent leurs adhérents contre la guerre. Guerre à la guerre, c'est le slogan très populaire et efficace. En 1912, suite des crises balkaniques, j'espère que vous savez, vous rappelez ces moments, vous avez connaissance de ces détails d'histoire qui amènent en partie à la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, les contradictions impérialistes se concrétisent dans la lutte pour la suprématie en Balkans. En Balkans, les divers États manipulés par les grandes puissances ouvrent une série de guerres à partir de 1911 avec la guerre tripolitaine commencée par l'Italie puis par les deux guerres balkaniques qui posent de manière précise la menace de la guerre. Et en octobre 1912, la situation est telle que la guerre semble inévitable. Même une Jaurès qui un optimiste, il veut être optimiste pour ce qu'on utilise une tonalité pessimiste totale. C'est la fin du monde, parce que pour Jaurès, la guerre, c'est la fin du monde. Or, l'international réussit à mobiliser, à travers des grands meetings, à travers un congrès resté célèbre, le congrès extraordinaire de Bâle. Vous trouvez un roman d'Aragon qui est à peu près fidèle de l'esprit de cette époque, qui joue un rôle considérable sur le plan international. Effectivement, la menace brandie par l'international, quand une guerre se socialise, l'international va répondre avec une révolution, joue un rôle considérable pour trouver une issue à cette crise. Et, tout au moins pour les contemporains, mettre terme à une menace de guerre. Comment donc s'explique l'effondrement de la deuxième internationale? Comment, malgré ces déclarations solennelles, ces actions concrètes, en août 1914, il y a une capitulation, il y a une faillite? D'abord, il faudra préciser une chose très importante. La capitulation, la faillite de la deuxième internationale ne réside pas dans le fait que le socialisme était incapable d'empêcher une guerre. Le socialisme international, jamais ne proposait pas empêcher la guerre. Il se proposa de mobiliser les masses, de déployer tous les efforts pour empêcher la guerre. La faillite réside dans un autre phénomène. La faillite et la capitulation résident dans le phénomène que l'international, ces sections essentielles, la partie social-démocrate, se rallient dès début de la guerre à l'Union sacrée, apporte son contribution positive aux efforts de la guerre, démobilise le mouvement ouvrier et accomplit ce phénomène d'intégration dans les dites sociétés globales que dans cette période pacifique avant 1914, il n'ose pas d'y accomplir. Donc, je vois les causes de cet effondrement, de cette capitulation en cinq raisons majeures. Et pour gagner davantage de temps pour la discussion, j'essaie d'être bref. D'abord, le premier, je vois dans les mutations subies par le mouvement ouvrier dans un laps de temps très court, dans l'incapacité des partis et des syndicats de digérer, d'assimiler cette énorme croissance, cette vertigineuse recrutement. On recrute tout. On recrute aussi bien des ouvriers industriels que la petite bourgeoisie. Tout est bon pour agrandir le nombre de militants et surtout, tout est bon pour multiplier les bulletins de vote. L'essentiel réside dans le nombre de votes. Il y a un vertige de succès. Et ce vertige de succès, cette ivresse d'une possibilité omnipotente d'un mouvement ouvrier qui, de rien, est devenu une organisation puissante, bouche tout l'horizon. Le grand débat qui se déroule à la réunion du Bureau socialiste international à la veille de la Première Guerre mondiale, le 29-30 juillet, est centré sur le problème. Comment sauver l'organisation en cas d'une guerre? Et Victor Adler, qui est une des personnalités les plus intéressantes, plus caractéristiques de l'esprit de la social-démocratie, il dit, nous ne pouvons pas sacrifier le résultat de notre 30 années de l'activité. Nous ne pouvons pas sacrifier cet magnifique édifice que nous avons créé. Nous devons penser pour la période après-guerre qu'on aura de nouveau besoin de cet édifice. Donc, cette patriotisme de l'organisation, cette fierté de l'organisation, des choses achevées, est un facteur très important qui change la perspective, qui change la conscience, à quelle s'ajoute, n'est-ce pas, cette motivation de fatalisme économique, qu'en tout cas le capitalisme est condamné. Donc nous devrons, comme tel, garder nos organisations pour cueillir les fruits de l'effondrement. Étroitement lié à cet vertige de succès et désir à tout prix obtenir que des succès immédiats, je vois le deuxième facteur qui est le prédominance de l'intérêt de lutte au jour de jour dans toute préoccupation socialiste. La préoccupation des intérêts de la lutte au jour le jour dans la préoccupation, dans la toute vision tactique, dans toute activité de la social-démocratie. Le but final, le socialisme, c'est une perspective lointaine. Ce qui est essentiel, de trouver des solutions à des problèmes immédiats. Déjà à cette époque-là, les social-démocrates sont des gérants excellents des municipalités. Les coopératives socialistes sont les meilleures coopératives dans le monde. La réponse à une préoccupation immédiate des revendications des syndicats convoque la réunion de la direction. Mais le débat, dans quelle perspective? Comment se situer rapporte un phénomène de radicalisation du mouvement? Comment se situe par rapport à un phénomène de une lutte de masse qui caractérise le mouvement, l'État et l'esprit de mouvement ouvrier. Avant 1914, dans la période dite de la cherté de la vie, est une préoccupation vue à travers les succès et les préoccupations des intérêts de la lutte jour au jour. C'est la prudence. C'est le slogan qu'on lance, par exemple, en 1909-1910, lors des grands mouvements de masse contre la la cherté de la vie. À ne pas compromettre nos objectifs, à ne pas compromettre les élections législatives qui auront lieu, par exemple, en Allemagne, en 1912, qui effectivement se finissent avec un énorme succès de la social-démocratie. De cette prédominance d'intérêt de la lutte au jour le jour, cet enfoncement dans le quotidien, dans ce que Lukács appelle le réalisme utopique, résulte un phénomène qui caractérise d'ailleurs la social-démocratie, qui joue un rôle très important en 1914 et après 1914 dans l'entreprise, n'est-ce pas, de mobilisation. C'est le divorce entre un langage radical et une pratique réformiste. Si vous lisez les journaux d'avant 1914, vous êtes frappé par un langage de classe. La lutte de classe, par exemple, c'est le terme que vous retrouvez dans toute la presse social-démocrate avant. Un radicalisme, une dénonciation du capitalisme, la menace de révolution est brandie à tout. Chaque fois, dès que la social-démocratie initie, par exemple, une action contre la guerre. Mais quand vous regardez la politique quotidienne, les efforts du parti, c'est le politique de jour au jour, c'est le politique réformiste, c'est le politique de sans perspective qui est un des traits majeurs et caractéristiques de l'activité. Une troisième raison de laquelle je vous avais parlé, cette oscillation de la social-démocratie entre intégration et isolement. Intégration dans le sens d'assumer carrément l'objectif réformiste, donc s'intégrer dans le système et devenir l'aile gauche de la bourgeoisie, et la situation d'isolement, sa constitution dans une subculture, dans une contre-société enfermée de la société globale dans laquelle il se trouve à la fois par la suite de la politique des classes dominantes et par sa propre hésitation. La social-démocratie allemande avant 14, c'est une énorme subculture, dans le sens que la social-démocratie ne représente pas simplement un parti, ne se représente pas seulement un réseau des syndicats, représente toute une forme de vie qui prévoit pour un ouvrier ou pour un adhérent social-démocrate la totalité de ses activités. La social-démocratie, par exemple en Allemagne, c'est la plus grande entreprise de culture populaire qui existait. La vie d'un social-démocrate se déroule dans des cercles de chants, de fumeurs de pipes, de joueurs de cartes, des corails, des associations sportives ouvriers. Il n'y a pas une forme d'organisation, même les femmes sont organisées dans la social-démocratie avant 1914, sans parler des jeunes et de la jeunesse. Donc, tout est couvert. Je dis même la femme parce que la vision de la social-démocratie avant 1914, disons, n'est pas orientée essentiellement vers le problème de libération de la femme, d'autant plus que la femme ouvrier et la femme en général n'a pas le droit de vote et ça ne se comptabilise pas dans ce terme-là. Il y a une défense d'intérêt des femmes et si on ne regardera pas ce problème dans mon perspective de l'effondrement de la Deuxième Internationale, on pourra trouver des aspects très importants dans cette longue histoire de lutte ouvrière pour les droits de la femme et pour apposer les problèmes spécifiques de la femme ouvrière. Mais cette subculture allemande illustre justement cet isolement que les directions veulent rompre à tout prix Et 1914, août 1914, l'Union sacrée va leur fournir l'occasion rêvée pour l'aile droite de sortir du ghetto, d'entrer dans la nation, de devenir un parti intégrant de la nation. Je retrouve des thèmes très contemporains d'ailleurs avec ce problème de ghetto, sortir de ghetto, mais je ne veux pas donner une orientation, disons, trop polémique pour mon exposé. Et une quatrième raison, je trouve, dans cet internationalisme rhétorique et cet nationalisme de réalité, le nationalisme d'intégration qui caractérise comme tel l'horizon mental, le niveau de conscience des militants et des dirigeants socialistes. Chez ces derniers, l'absence d'une vision théorique et politique globale représente le point le plus faible. L'impérialisme comme tel devient un mot qui entre dans le vocabulaire, mais pas d'une réalité politique concrète de laquelle on tient compte pour élaborer la politique et stratégie socialiste. La politique étrangère, par exemple, est considérée comme quelque chose qui appartient à la bourgeoisie, donc la social-démocratie comme telle ne doit pas s'intéresser. La France, je reste une exception dans toute cette préoccupation d'ensemble. On délègue la politique extérieure sous le motif que la classe ouvrière comme telle, en tout cas, n'a aucune participation réelle au pouvoir et dans l'élaboration ou influencer la politique extérieure. Et enfin, un cinquième élément très important réside dans les illusions pacifistes. Il vous semble paradoxal, mais les théories socialistes sur l'impossibilité d'une guerre à la suite de développements techniques, à la suite des intérêts des monopoles de s'entendre sur le plan international est élaborée à la veille de la guerre de 1914. C'est en 1912, après le congrès de Bâle, après cette grande victoire sur les forces belliqueuses, que les socialistes, les théoriciens socialistes et avant tout Kautsky élaborent la théorie de l'ultra-impérialisme dans laquelle ils démontrent qu'une guerre est impossible pour plusieurs raisons. D'abord, les capitalistes, les monopolistes, le monopole ne sont pas et le trust ne sont plus intéressés. Au contraire, vu la mondialisation de l'économie, eux font tout possible pour freiner les forces militaristes, les forces belliqueuses. Deuxième argument très important, les forces de destruction sont devenues si puissantes que cette folie empêche même la bourgeoisie de faire appel à une guerre. Un troisième argument, un argument rhétorique, est qu'en tout cas, la classe ouvrière ne peut pas tolérer une guerre et la classe et la bourgeoisie est effrayée par la perspective d'une révolution que la social-démocratie brandisse. Voilà cinq raisons majeures que je trouve qui expliquent. Mais j'ajouterai un sixième que peut-être Victor va traiter dans une perspective différente. Cet effondrement, cette capitulation d'un mouvement ouvrier, c'est à la fois une faillite mais une rupture. Et cette côté rupture, je pense, que n'était pas suffisamment souligné, et assez souligné ensuite, quand on examine l'expérience de mouvement ouvrier. Rupture avec quoi? Rappelez-vous, la Commune de Paris a marqué une rupture avec la phase initiale de mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier entre, après 1870, dans son phase de croissance, dans sa phase d'organisation. 1914, c'est une rupture avec deux phénomènes. D'abord, il est rupture avec la social-démocratie traditionnelle telle qu'il se cristallise dans un stade de développement de mode de production capitaliste dans les années 1890, avec ses structures adéquates, avec ses cadres, avec ses visions théoriques. C'est une rupture avec une époque de capitalisme libéral un capitalisme en pleine expansion qui trouve sa traduction dans la réalité même de mouvement politique. Et c'est une rupture avec une vision, disons, œcuménique de mouvement ouvrier.
Enfin, je voulais vous poser, c'est comme tu veux, plusieurs questions qui n'ont pas été, que tu n'as pas exposées là-dessus. Et quel rôle a pu jouer le syndicalisme révolutionnaire à côté de la Deuxième Internationale? Et il y a une chose dont tu n'as pas parlé non plus, qui est une chose quand même importante dans le mouvement ouvrier français et qui a eu un retentissement sur le plan international, c'est la charte d'Amiens aussi.
Je n'ai pas parlé, c'était le sujet de ma lettre, j'ai peur que je ne veux pas répéter. Il y a eu deux conférences sur le mouvement ouvrier en France, donc moi je me suis tenu, même je ne voulais même pas prononcer le nom de Jaurès, étant donné que c'était prononcé, je pense, au moins 50 fois dans ces deux conférences. Mais le sujet tienne à la fois et non à mon problème, car le syndicalisme révolutionnaire comme tel est banni de la Deuxième Internationale. N'oubliez pas une chose, en 1896, au Congrès de Londres, il y a eu lieu la première grande divorce, scission dans le mouvement ouvrier, entre les social-démocrates et les anarchistes. Les anarchistes sont, comme tels, expulsés de la Deuxième Internationale. Ensuite intervient un autre phénomène très important en 1900. La divorce sur plan institutionnel dans le cadre international entre l'international socialiste et le secrétariat international des syndicats. Donc, théoriquement sur plan international, les partis politiques comme tels et les syndicats mènent leur action parallèle. C'est le deuxième phénomène. Troisièmement, le syndicalisme révolutionnaire, effectivement, c'est pas seulement un phénomène français. Le syndicalisme révolutionnaire, sur des formes diverses, et avec un succès plus ou moins grand, on retrouve dans divers pays européens, mais surtout en Amérique latine. Le syndicalisme révolutionnaire, comme tel, suit sa stratégie et sa faillite en sa stratégie, n'est-ce pas, qui est celui de stratégie de rupture, la réponse à une guerre avec grève générale, et la grève générale comme telle, la condamnation radicale de la guerre, prédomine jusqu'à 1910 toute résolution, tout acte de syndicalisme révolutionnaire. En France, n'est-ce pas, où la rivalité entre les partis et la hostilité entre les partis et les syndicats révolutionnaires est assez marquée, très souvent, les actions contre la guerre, les actions, les mobilisations n'obtiennent pas les mêmes dimensions escomptées comme en Allemagne, étant donné que chacun mobilise ses propres troupes. À partir de 1910, et il y a une étude très intéressante de Jacques Julliard, qui n'est pas simplement un des dirigeants de CFDT, mais un excellent historien de mouvement ouvrier, intervient un assez grand changement. Dans le sens que la grève générale, comme telle, est proposée comme un moyen d'action, mais la réalité de la grève générale contre la guerre est reléguée de plus en plus dans un arsenal des menaces. Et finalement, c'est seulement une partie des syndicats révolutionnaires, une fraction, Rosemère et Monat, qui, comme tels, vont, il y a Merheim, il y a une fraction, un groupe, n'est-ce pas, minoritaire, qui en 1914, comme tels, vont s'opposer, sinon avec une grève générale, parce que la grève générale s'avère effectivement illusoire, mais vont s'opposer sur plan de résistance contre la guerre. La grande masse, même de syndicalistes révolutionnaires, comme tel, soit est entraînée, parce que c'est un problème très compliqué, soit ils succombent à l'Union sacrée. Je dis un problème très compliqué, étant donné que c'est très difficile à étudier le mécanisme de mobilisation dans un laps de temps court qui est entre le 31 juillet et 3 août. Il y a des phénomènes, surtout, je ne sais pas combien d'entre vous ont assisté à un phénomène de mobilisation de guerre, etc., au moment quand des partis comme les partis social-démocrates, de lenteur pour, et de l'hésitation pour proposer un slogan de mobilisation à la classe ouvrière, perd chaque minute, laisse le mouvement ouvrier complètement désorienté. Comment agit un ouvrier désorienté, un déferlement de vagues nationalistes? C'est un problème très compliqué, très difficile. Je ne pense pas que la vague nationaliste envahit toute l'Europe en 1914. Mais la désorientation, l'absence de toute perspective, entre 31 juillet et le 3 août, effectivement, démoralise, démobilise l'ensemble du mouvement ouvrier. Cet effet, il joue aussi un grand effet parmi les syndicalistes révolutionnaires. Comme il y a un élément très important qu'il faut tenir compte, ce n'est pas simplement la bourgeoisie qui joue avec l'image de l'ennemi. À l'intérieur du mouvement ouvrier aussi, existent des traditions objectives de l'image de l'ennemi. Dans la social-démocratie russe, Marx et Engels l'enseignaient, le mouvement ouvrier, que c'est la Russie tsariste qui représente la bastion de la réaction. Que il faut défendre l'Europe civilisée, coûte que coûte, contre le déferlement de la barbarie qui est la Russie tsariste. Ce thème, la Russie tsariste, ennemie de la civilisation, l'Allemagne, la social-démocratie allemande, représentante et avant-garde d'Europe civilisée, est très profondément ancrée dans la conscience. Et le chancelier Bulow joue en plein, à la fois dans ses conversations avec les dirigeants social-démocrates, en disant, évidemment, nous ne voulons pas une guerre, mais si la Russie nous attaque, nous devons nous défendre, que dans toute l'argumentation et toute mobilisation des masses, tout de suite après août 1914. En Allemagne, en France, il y a le même phénomène. Il y a le souvenir de la chute de la Commune, il y a le souvenir de la guerre franco-prussienne. Il ne faut pas tout simplement brandir l'image chauvin d'ennemi. Il y a une réalité incrustée, cette heurte entre l'Allemagne impériale et la France républicaine. C'est un des grands thèmes qui joue un rôle capital, pas simplement chez les ouvriers, mais chez très nombreuses dirigeantes de l'époque et militantes. Vous savez que l'organisation bolchevique de Paris, 80% comme telle se présente volontaire dans l'armée française. Et parmi les premiers émissaires de la Troisième Internationale, nombreux sont des anciens combattants. Il y a eu un Dr. Goldenberg qui était l'ami de Charles Rapaport, vieux compagnon de Rosa Luxembourg, qui est expulsé de France ensuite en 1922 comme émissaire de la Troisième Internationale. Il est volontaire. Il est volontaire en 1914. Son fils devient ensuite patriote et résistante. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est Léo Hamon. C'est très compliqué, pour ça je vous dis le phénomène. Et justement, toute cette question, compte-t-elle, dans ce contexte, pose le problème du syndicalisme révolutionnaire, mais qui, compte-t-elle, n'était pas l'objet de mon topo de ce soir, étant donné que je parlais de la Deuxième Internationale, les syndicalistes révolutionnaires ne font pas partie, de aucune manière, n'est-ce pas, de cette vaste fédération des partis autonomes qui est la Deuxième Internationale. Mais le problème est très intéressant et très important.
J'aimerais savoir quel était l'impact de ce congrès de Bâle et puis des thèses de Jaurès, et puisque c'est d'actualité, de l'antimilitarisme au niveau des masses laborieuses européennes.
Écoutez, il y a deux thèmes qui sont joints et en même temps différents. Et on confronte très souvent, et même dans le vocabulaire socialiste, l'antimilitarisme et la lutte contre la guerre représentent des thèmes similaires et différents. Similaires et différents dans le sens que, jusqu'à fin 19e siècle, il semblait qu'il faut éviter coûte que coûte une guerre, parce que la guerre représente le moyen à la fois de dévier la lutte révolutionnaire et démobiliser l'armée comme la force et avant-garde de la contre-révolution. Ce thème, comme tel, disparaissent à partir du début du XXe siècle de préoccupation de la Deuxième Internationale. Vous retrouvez ce thème en France, chez Hervé, chez les groupes extrémistes autour de la guerre sociale, qui mènent une campagne antimilitariste très soutenue, qui sont antipatriotards à 100%, qui nient même l'existence, n'est-ce pas, de la nation. Mais le comble d'ironie, le premier sera lié à la Union sacrée sera Gustave Hervé. Il est fini comme Vichyssard. Un problème très compliqué, je vous dis, cette question était très peu étudiée dans une perspective plus sérieuse que la perspective, disons, générale de la lutte contre la guerre. Tout le problème de réflexion classique socialiste, le problème de l'armée, est très peu connu. Par contre, ce qu'on connaît très bien, il y a des travaux, par exemple en Allemagne, c'est la réflexion de l'armée sur la social-démocratie. Ça, on connaît très bien, et la mobilisation, n'est-ce pas, et la préparation pour la guerre civile, etc., les brimades des social-démocrates, l'armée, etc., ça, on connaît très bien. Mais l'autre aspect, on ne connaît pas pour plusieurs raisons. Une des raisons, je pense aussi, car c'est qu'il manque une position très claire dans ce domaine, et la question se pose évidemment différemment fin 19e siècle et en 1914. Le congrès de Bâle. Le congrès de Bâle comme tel, ici de nouveau une confusion terre, il y a un grand antimilitarisme avant 1914 signifie avant tout lutte contre la menace de la guerre. Le terme se confond de plus en plus. Bâle a une énorme influence. On peut mesurer cette influence si on regarde la presse, si on regarde les dépêches des divers ambassadeurs, et si on regarde surtout les circonstances dans lesquelles se produit le congrès. Avant le congrès, c'est un lever de masse des ouvriers. Après le congrès, c'est la mobilisation générale des ouvriers organisés sous le slogan « guerre contre la guerre ». Mais on oublie un phénomène très important. Que cette mobilisation contre la guerre coïncide à une période de mobilisation, disons, assez spontanée et générale de lutte sociale de cette époque-là. La lutte contre la vie chère, il y a un phénomène entre 1808 et 1913, la cherté de la vie, qui caractérise la situation de l'économie qui est ressentie par la classe ouvrière, qui, quand elle suscite des énormes mouvements de protestation, excepté en France, mais surtout en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Italie, et une radicalisation du mouvement ouvrier. L'endroit le plus chaud avant 1914 de l'Europe, de ce point de vue de confrontation sociale, de contradiction de classe, se situe en Angleterre et en Russie. Voilà le grand problème, il y a un reflux. Moi j'essaie d'expliquer à ma manière, c'est-à-dire j'essaie d'expliquer ça à la fois par le phénomène que je vous avais parlé et le phénomène de conjoncture. Cet mouvement de grève dont je vous parle, cette mobilisation sur des thèmes, objectifs sociaux, s'arrête en 1913. L'économie se redresse. Il y a un redressement, le cours de grève tombe et il y a une démobilisation générale de la lutte sociale. La social-démocratie répond avec une démobilisation politique générale en disant on ne peut pas mobiliser les masses jusqu'à l'infini. Voilà, on les a mobilisés pendant 4 ans contre tout, contre la cherté de la vie, contre la guerre, etc. Comme la situation internationale semble maintenant calme, il ne faut pas continuer cette offensive. Et vous savez que 1914, l'été s'avérait comme l'été le plus pacifique. Tout le monde est en vacances. Tous les diplomates et tous les dirigeants socialistes. Pour convoquer la réunion du bureau socialiste le 29 juillet, il fallut déranger les gens des vacances. Voilà, c'est la conjoncture qui explique, à côté de ces grand point, n'est-ce pas, la conjoncture peut hâter et mûrir des phénomènes profonds. 14, ce n'est pas un accident, c'est une conséquence logique. mais on n'arrive pas automatiquement à une conséquence logique s'il n'y a pas aussi une conjoncture. D'ailleurs, j'ai une autre hypothèse qui est difficile à vérifier parce que peu de travaux ont été faits, que cet état de démobilisation de la classe ouvrière, le mécanisme même de ces mobilisations, l'état d'esprit qui règne à l'intérieur du mouvement ouvrier, cet optimisme et cette théorisation de l'optimisme est très bien connu et calculé par les gouvernements. Car on ne peut pas déclencher une guerre sans connaître l'état d'esprit et sans se rassurer de cet état d'esprit. En Allemagne, les chanceliers se rassurent en prenant contact avec les représentants de l'aile droite du Parti social-démocrate. Mais ce n'est pas sur le parole de Soudekoum qui a cette rencontre que le chancelier va mettre terme au dispositif militaire de combattre les social-démocrates au cas de déclenchement de la guerre, mais à une connaissance de l'état d'esprit, à une connaissance exactement de l'état de combativité de la classe ouvrière à ce moment-là. Or, ce facteur, il ne faut pas négliger, étant donné qu'on ne peut pas tout simplement voir la capitulation d'un côté sans voir comment on manipule aussi le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier est à la fois sujet et objet de cette histoire.
Moi, je voudrais te demander plutôt dans la ligne de ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que, pour parler de pénétration de l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie, notamment sur le plan patriotique, encore faudrait-il s'assurer que l'internationalisme est une valeur idéologique dominante et de masse dans le mouvement ouvrier. J'en suis pas persuadé. Durant toute la période qui précède, je crois que 14 peut, l'effondrement de 14, le revirement qui n'en était peut-être pas un, puisqu'on le situe dans le cadre de toute une évolution historique dont il apparaît être une issue, d'une certaine façon également, on peut se demander si, porté par de larges mouvements de masse, et non pas par des avant-gardes intellectuelles, que ce soit politiques ou syndicales, et confortées en tout cas par l'attitude complaisante vis-à-vis de pensée nationaliste, même latente au sein du mouvement ouvrier, là, on ne doit pas être amené à une réflexion théorique plus approfondie sur le thème du nationalisme, des expériences et des mouvements ouvriers séparés pendant toute la période qui va entre 1870 et 1914. Peut-on dire, est-ce qu'on peut réutiliser maintenant Gramsci pour dire qu'il y avait simplement hégémonie culturelle et pénétration, pour dire, comme si on disait que finalement le nationalisme était un corps étranger à la pensée ouvrière?
C'est un problème très compliqué, le problème de l'hégémonie culturelle bourgeoise, ça ne signifie pas étranger. La classe ouvrière comme telle fait partie de la société globale par son éducation, par la culture dont elle dispense. Et le problème essentiel est dans quelle mesure il est capable, pas simplement de sécréter une culture ouvrière, mais sécréter une culture ouvrière autonome. Quelles sont les formes et les moyens de diffusion et de pénétration de cette culture ouvrière? Je vous dis, très sincèrement, nos connaissances sont très limitées. Et comme, et là, je suis une historienne, je voudrais parvenir maintenant avec des grands modèles idéaux. J'aurais voulu me baser sur les travaux historiques existants. Or, il y a très peu. J'ai lu un roman ouvrier, fait par un ouvrier qui décrit la vie d'un ouvrier social-démocrate à Hambourg. Et c'est très intéressant comment, n'est-ce pas, cette hégémonie culturelle de la bourgeoisie pénètre à travers des valeurs. Lui se déclare comme tel internationaliste, cette vie ouvrier, car il a vu ce qu'il a vu pendant la guerre franco-prusse. Mais comment concrétiser cet internationalisme? Comment fixer cet internationalisme? Il n'arrive pas. Ce sont des termes très abstraits. Par contre, il y a un terme très concret, de plus en plus l'image de patrie, etc., qui se pénètre à travers l'interprétation très confuse. Interprétation confuse que donne même la social-démocratie, qui n'arrive pas à opposer son image, sa valeur, à ses réalités. Et c'est un des grands problèmes qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense, reste un grand problème. En quelle mesure le mouvement ouvrier était capable de sécréter sa propre culture? Pas comme une culture, tout simplement comme une culture de négation des valeurs de culture bourgeoise. Pas le problème de deux cultures de Lénine, mais le problème beaucoup plus profondément comme culture qui fixe la structure mentale, l'horizon, le niveau de conscience, parce que les deux cultures se placent au niveau des producteurs. Je parle maintenant de ceux qui consomment en même temps et produisent la culture ouvrière. Et qu'on retrouve de manière plus globale et plus générale, pas simplement dans les pays capitalistes. Et c'est un, à mon avis, c'est un des grands problèmes. Évidemment, par Gramsci, on ne peut pas tout simplement comprendre. Gramsci pose un problème, c'est-à-dire, il est sensible à ce problème. Il me semble que ça reste un des grands problèmes de notre période, plus encore qu'avant 1914. Parce que 1914, quand même, c'est le balbutement du mouvement ouvrier, c'est son ivresse, dans quelque sorte, d'une proximité, quand même, de deux révolutions bourgeoises, qui, donc la tradition, il veut assumer, où le symbole de la démocratie sont des symboles de la bourgeoisie libérale, où la classe ouvrière, seulement à partir de la commune, commence à avoir ses propres ses symboles, ses propres références. Donc cette période comme telle, à la fin, est beaucoup plus nue et beaucoup plus compliquée dans le sens nu. On sait qu'existe une hégémonie culturelle exercée par la bourgeoisie. Ce qu'on ne sait pas, quelle forme et dans quelles conditions la classe ouvrière comme telle, ou ses organisations, auront pu sécréter et généraliser une culture ouvrière authentique et autonome. Ils diffusent une culture, je vous avais dit, c'est une des plus grandes entreprises d'éducation. Mais les valeurs qu'ils diffusent, ce sont des valeurs des hommes de la bourgeoisie avancée. On apprend l'ouvrier, le métier on apprend. L'ouvrier apprend son métier et l'amour du métier, assez paradoxal, à travers les organisations.
Tels que la nécessité de l'organisation ouvrière, tels que le fondement de la lutte de classe, se sont enracinés, font partie des valeurs produites et reproduites dans la subculture du mouvement ouvrier, même si elle ne touche pas sa globalité, il apparaît frappant que l'internationalisme n'apparaît pas à s'imposer, situé à un stade de récupération éthique et morale pendant toute la période, il n'arrive pas à s'imposer dans le cadre des masses ouvrières. Et même les intellectuels ouvriers qui forment les avant-gardes organisationnelles, peut-être d'ailleurs parce qu'ils l'ont uniquement situé au niveau éthique, le problème d'internationalisme n'est pas toujours...
C'est au niveau déclamatoire et éthique. Je disais de l'internationalisme rhétorique, des grandes déclarations, des grands sentiments de fraternité, sans pour autant clarifier au fond ce problème, poser les problèmes. On résolut soit avec des résolutions, soit avec des formules brillantes, comme la formule de Jaurès est merveilleuse, mais comme telle, ce n'est pas une élaboration théorique qui ensuite vous permet de vous orienter et mener toute l'activité. Je pense que jusqu'aujourd'hui, le problème internationaliste comme tel reste un des problèmes les plus abstraits. Le problème subjectif dans ça, on définit l'internationalisme, ce que moi que je considère comme internationalisme. Dans le sens-là, ça reste, il me semble, un des lacunes centrales et fondamentales de tout développement du mouvement ouvrier, étant donné qu'il s'agit des catégories très facilement, qu'on peut très facilement vider de ce peu de contenu qu'ils ont, et qui en général se transposent dans des symboles, mais entre le symbole et la réalité du mouvement et de l'action, ils peuvent avoir un abîme énorme. Mais c'est un problème très compliqué, nous entrons dans tout le problème, n'est-ce pas, tout le problème formation nationale, question nationale, internationale, qu'on soit mériterait un débat, une discussion, étant donné que il se limite pas au problème de 1914, et en 1914 aussi, il montre des phénomènes très contradictoires, parce que le problème ne se pose pas dans, tout simplement dans le terme de nationalisme, se pose aussi dans le terme de libération nationale, se pose dans le terme de formation d'États nationaux, etc. Peut-être vous reviendrez à ça, étant donné qu'il se situe même au centre d'actualité.